Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Ornithorynque, votre radio locale. On se retrouve pour une interview aujourd'hui avec notre stagiaire Léandro. Bonjour Léandro.
Bonjour.
On reçoit aujourd'hui au micro Christian Potier, président du Petit Train de Semur-en-Vallon. Bonjour Christian.
Bonjour à la radio Ornithorynque et bonjour à toutes et à tous.
Tu n'es pas venu seul aujourd'hui.
Et non, j'ai amené notre charmante Lola, Lola Coin, qui est apprentie en BTS dans notre association.
Bonjour.
Alors vous êtes venu nous parler du bilan de l'année 2022 à la fin de cette année. Mais avant de parler du bilan, on va parler du Petit Train pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est Léandro qui a 14 ans, stagiaire à la radio, qui va vous poser quelques petites questions.
Alors ma première question, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire du Petit Train ?
Alors je peux te raconter l'histoire du Petit Train, mais il y en a pour une heure.
On va faire bref, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pendant cette interview.
Alors pour faire extrêmement simple, le Petit Train de Semur-en-Vallon, bien connu des Sartois, existe depuis 54 ans, 55 ans l'année prochaine. Il a commencé par le fameux plan d'eau de Semur-en-Vallon, les pédalos, la vedette promenade, les barques, la baignade, la pêche et la guinguette. Donc c'était un succès monumental. Le Petit Train va arriver en 1972. Ça veut dire qu'en 2022, ça fait 50 ans que le Petit Train roule à Semur-en-Vallon.
Wow.
Et le Petit Train est arrivé en complément du plan d'eau. Pour aujourd'hui, je fais très court, en 50 ans, il est devenu l'attraction numéro 1, puisque c'est un grand musée de chemin de fer qui s'appelle le Musée au Train.
Alors ça a été le musée au train, en tout cas l'histoire du Petit Train a été lancée par la famille.
Alors c'est, on va dire ça comme ça, c'est mon père, dans les années 65-66, avec une poignée de bénévoles hein, qui étaient à Semur-en-Vallon, donc on ne les citera pas mais on a une pensée pour eux parce que ça fait longtemps, et qui ont décidé, parce que le village était en train de mourir tout simplement, comme ça se faisait beaucoup au milieu de ces années 60, et ont décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui une base de loisirs nautique, mais à l'époque c'était en fait une copie en petit du plan d'eau de Ciel-Guillaume.
Mais à Ciel-Guillaume il n'y avait pas de train.
Et à Ciel-Guillaume il n'y avait pas de train, et le train va arriver donc... je rappelle que le plan d'eau a ouvert au 1er juillet 1968, juste après les événements, sachant que le train va arriver quand même 4 ans plus tard. Pourquoi 4 ans plus tard? Parce que des bénévoles de cette époque-là vont se rendre au Floralie d'Orléans. Mmh. Et dans le parc des Floralie d'Orléans, il y avait un petit train. Et donc l'idée est tout simplement venue en disant un petit train comme ça serait super bien autour du plan d'eau de Semur-en-Vallon.
Pourquoi avez-vous repris la présidence du Petit Train?
Ça, c'est une très bonne question, j'en sais rien. En fait, je disais tout de suite que c'était mon père qui avait créé l'association et lancé cette idée de plan d'eau et multiservice, on va dire. Et quand le père en question a pris de l'âge, voire malheureusement est décédé, bien fallu continuer la chose. Et la question s'est même pas posée, quoi. Je veux dire, nous, on était dedans depuis, avec mon frère, on était dedans depuis tout petit, on a continué, puis voilà.
Et vous êtes toujours dedans tous les deux.
Et voilà. Et il fallait un président. J'ai pris la place de président. C'était au début du siècle.
Ouais.
2000, bien entendu. Pas l'autre siècle, hein. Au début du siècle. Et voilà. On est toujours tous les deux dans l'affaire. Lui gérant plutôt la partie technique et aussi aujourd'hui la partie dont on va parler après. Le mécénat.
Justement, j'ai envie de parler tout de suite de l'avenir parce que au bout d'un moment, il va falloir penser à lâcher les rênes, monsieur Potier. Est-ce qu'il y a déjà une idée du prochain de ton successeur ?
Alors d'abord lâcher les rênes, faut être vieux pour ça ?
Oui, oui, oui. Oui, tu n'as que 22 ans.
C'est
23
ça.
Ans, 23 ans, 23 ans.
La grande difficulté aujourd'hui, c'est bien ça. C'est-à-dire que, je disais, aujourd'hui, c'est une entreprise associative, donc qui prend énormément de temps, qui est chronophage. Et je disais que quand on est chef d'entreprise, c'est très facile. Quand on en a marre, on vend l'entreprise. Mmh. Là, vendre l'association, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faudrait de la relève. Or, le problème de la relève aujourd'hui, elle est assez compliquée, déjà par la chute du bénévolat, qui est connue de tout le monde. C'est pas que notre association, c'est toutes les associations. Et l'autre problème, c'est que la jeune génération, qui est bénévole, hein, il y a des bénévoles très jeunes dans notre association, relativement jeunes, et donc il n'y a aucun souci, ils viennent bien travailler, mais ils veulent pas, absolument pas, s'embêter avec la complexité administrative d'aujourd'hui qui est hyper chronophage. On est arrivé à 2,5 équivalents temps plein rien qu'en administratif et la jeune génération ne veut surtout pas s'embêter avec ça. Ça veut dire en clair que la nouvelle présidence, il n'y en a pas pour l'instant.
Donc pour l'instant, c'est toi le président. On va parler justement de l'avenir. On va parler également du présent pour le petit train de Semur en Vallon. Il y a eu quelques années, il y a eu des grands travaux, je me souviens, qui sont mis en place avec le musée Decauville. Et justement, Léandro,
je me demandais pourquoi la gare se nomme-t-elle Decauville.
Alors, pourquoi la gare se nomme-t-elle Decauville? Alors, c'est une histoire assez compliquée et c'est vrai que Lola ne pouvait pas la connaître parce que faut quand même appeler un chat. Lola est là avec nous depuis 3 mois seulement.
D'accord.
Donc, elle peut pas connaître une histoire de 55 ans en 3 mois, c'est évident. Alors, pourquoi c'est Decauville? Parce que nous faisions du Decauville sans le savoir. Un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait des vers sans le savoir. Nous avions notre train qui roule depuis 1972, et bien un Decauville. Mmh. Donc une locomotive Decauville, des châssis de voitures Decauville et des reconstructions de voitures qui sont à l'identique de ce que faisait Decauville. Decauville, c'est qui? C'est un monsieur en 1875 qui a inventé le chemin de fer portatif. Dit autrement, c'est le train qui roule à Semur-en-Vallon, c'est bien un chemin de fer portatif inventé par Paul Decauville en 1875. Même si le nôtre, il n'est pas tout à fait de 1875, il est venu un peu plus tard, mais c'est le même procédé.
C'est le président qui est de 1875.
C'est ça.
Voilà.
Alors, du coup, l'aventure Decauville a été fabuleuse, puisque Paul Decauville a vendu dans le monde entier, c'est son usine, enfin l'invention, c'était à Évry, sur la commune d'Évry, en Seine-et-Oise à l'époque, en Essonne aujourd'hui. La commune d'Évry, donc, c'était à la ferme de Petitbourg. C'est là que l'invention a été faite, en 1875. Ça a tellement été une invention fabuleuse à cette époque-là. Alors, je pourrais vous raconter encore plus, mais on va arrêter là. Simplement dire que l'usine Decauville de Évry a basculé à Corbeil. Et l'usine de Corbeil, c'était 2000 salariés, dans une usine de 15 hectares qui vendait dans le monde entier. Du coup, sur Corbeil, Évry, Courcouronne, donc, ces trois communes de l'Essonne aujourd'hui, des gens ont dit il faut absolument qu'on fasse le musée Decauville parce que c'est une trop grande aventure, on ne peut pas laisser s'éteindre cette affaire-là. Mmh. Bon, ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons, malheureusement. Et du coup, la vie a fait qu'un jour, vers 2010, on a rencontré ces gens-là qui jetaient l'éponge en disant on ne fera pas le musée Decauville en Essonne. Et du coup, en faisant très simple, c'est pourquoi il ne serait pas à Semur-en-Vallon. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et donc, le musée au train de Semur-en-Vallon est devenu le musée au train de Decauville. Et donc, il raconte, entre autres, et pas que, l'histoire de Paul Decauville et de sa fabuleuse aventure.
Un musée au train géré par donc une association.
Lola, combien y a-t-il de bénévoles dans l'association et comment faire pour devenir bénévole?
Alors, il y a environ 40 bénévoles dans l'association. Et pour devenir bénévole, il faut contacter Christian. Et puis après, expliquer si on veut s'investir, dans quel secteur est-ce qu'on pourrait aider, etc.
Alors justement, pour devenir bénévole, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme on dit. Hein.
Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, mais tout de même.
Avoir un peu de logique.
Mais tout de même, on a deux secteurs d'activité. On a ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire c'est accueillir les gens, les accompagner dans le musée au train, et puis bien sûr conduire le train. Ben, quand même, on ne peut pas s'improviser accueillant, accompagnant ou conducteur de train.
Il y a quand même des formations aussi, voilà. Des formations internes là-dessus.
Donc techniquement, il faut quand même... on ne vient pas, dimanche prochain, je conduirai le train. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc il y a quand même un minimum et surtout l'envie d'apprendre et de faire les choses. Sachant que c'est très professionnel et donc il y a des règles, des interdictions, des obligations, des normes. Donc voilà, il faut respecter. Et puis l'autre activité, c'est la MACIM. Alors MACIM, ça veut dire maintenance, aménagement du site, des installations et des matériels. En gros, c'est du grand bricolage général. Hein. Donc là, c'est tout corps d'État. Alors c'est vrai que si on a de la technique, c'est bien. C'est même mieux. Par contre, si on ne sait rien faire, mais qu'on a envie de faire, il y aura toujours de l'occupation. Je veux dire, quand il s'agit de couper des végétaux, il n'y a probablement plus besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme disait Teddy. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément avoir des compétences. Il faut simplement avoir envie de venir, de s'investir et d'apprendre.
Et sans forcément attendre quelque chose en retour.
Ouais, bien sûr, c'est bénévole.
La satisfaction du client, du visiteur, et de son sourire et surtout de leur merci.
Ah oui, parce que il faut appeler un chat aujourd'hui, on va dire 99%, pour ne pas dire 100%, de nos bénévoles sont d'abord complètement estomaqués, on va dire, de la visite du musée Autrin. Et tous félicitent les bénévoles, remercient, sont étonnés, ne se rendent pas, ne disent c'est pas possible, on pouvait pas imaginer qu'il y avait ça. Et la meilleure preuve qu'il peut y avoir, c'est les 4,8 de notes sur 5 que nous avons sur les réseaux sociaux.
Et ça, c'est plutôt pas mal quand même pour une association qui est partie juste du plan d'eau pour ensuite devenir ce qu'elle en est maintenant. Quelle est la superficie d'exploitation du petit train?
Quelques chiffres, 5,5 hectares de terrain. 3 km de voie de chemin de fer de type Decauville installé. Ça ne veut pas dire que le visiteur fait 3 km de voyage, mais il y a en tout 3 km de voie de chemin de fer. Et le musée, c'est 800 mètres carrés. Mmh. En termes de collection, dans le musée, il y a une trentaine de matériels divers et variés, dont 13 lourds, c'est-à-dire 13 engins qui font 20 tonnes.
Qui sont posés sur des rails.
Qui sont posés sur des rails.
Qui roulent pas, par contre.
Qui ne roulent pas, mais qui sont immersifs, qui sont dans un décor, qui permettent aux gens d'entrer et de vivre comme s'ils étaient en 1900.
Justement, pour rentrer, donc, on arrive à la gare de Semur-en-Vallon. On prend un petit train. On prend un ticket, déjà. On prend le petit train. Et justement, dernière question de Leandro.
Lola, combien y a-t-il de trains qui fonctionnent?
Alors, on a la loco rouge, donc la Decauville, qui, elle, c'est principalement celle-ci qu'on utilise. Et quand on a besoin d'un deuxième train, on utilise la chinoise.
D'accord.
On revient un peu sur l'association. On revient aussi du côté du nombre de visiteurs. Cette année, Christian, tu disais 4,8 sur 5 au niveau des avis sur Internet. Beaucoup de visiteurs.
Alors oui, les chiffres de 2022 sont assez étonnants. Je rappelle simplement que en 2019, juste avant la Covid, on était à un peu plus de 7000 visiteurs. Mmh. Évidemment, comme tout le monde, on a chuté énormément en 2020. On s'était un petit peu rattrapé en 21, mais pas beaucoup. Et en 2022, on est revenu au même chiffre que 2019, c'est-à-dire 7200 visiteurs environ.
C'est plutôt pas mal.
C'est plutôt beaucoup. Bien, même très très bien. On est même très étonnés. On pensait pas faire autant que ça.
Alors, le petit train qui est ouvert pour les groupes à partir du mois d'avril-mai?
Alors, en théorie, aujourd'hui, nous recevons les réservations groupes mai, juin et septembre.
D'accord.
Et là, c'est les gens qui disent l'heure et le jour, puisque c'est eux qui disent on veut le train tel jour, telle heure. Ensuite, ça sera ouvert sans réservation pour le public général, on va dire, ce qu'on appelle, nous, les trains réguliers, qui seront en fonctionnement tout le mois de juillet et tout le mois d'août, pendant les vacances scolaires. Mmh. Et là, c'est tous les après-midi, et il y a 5 trains tous les après-midi.
Et pour 2023, on va déjà parler de l'avenir du petit train, un avenir incertain, si on peut employer ce mot, puisque le petit train est actuellement, malgré toutes les aides que vous avez, une baisse de bénévoles, comme tu le disais, Christian, et surtout une baisse financière.
C'est-à-dire que le problème est le suivant. Aujourd'hui, le site est bien avancé, pas fini, mais bien avancé. Donc aujourd'hui, c'est un site professionnel de grande qualité que les gens apprécient énormément. Donc naturellement, les gens viennent tout seuls, sans qu'on aille forcément les chercher, puisque rien qu'un chiffre qui va parler, 40% de nos visiteurs, c'est soit des gens qui sont déjà venus, ou à qui on a dit « il faut absolument y aller ». Donc c'est de la publicité de bouche à oreille.
Donc, la meilleure des pubs qui
soit. Donc ça veut donc dire que le site vaut quelque chose, sinon les gens ne se diraient pas entre eux « voilà, il faut y aller ». Donc voilà, en termes de fonctionnement, de résultats, on est plutôt bien. Sachant que c'est un site privé associatif et qu'on n'a quasiment pas de subventions. Quand je dis quasiment pas de subventions, on va donner un chiffre comme ça, deux chiffres comme ça, histoire d'illustrer. Pour fonctionner, le budget de fonctionnement de l'association est d'environ 45 000 euros chaque année. Les subventions que nous recevons aujourd'hui sont inférieures à 6 000 euros. Donc c'est relativement faible par rapport au chiffre d'affaires fait.
Donc les 40 000 euros, ils viennent d'où?
Alors les 40 000 euros, ils viennent tout simplement des billets que les visiteurs ont payés, plus un peu de mécénat. C'est-à-dire que nous sommes habilités, l'association est habilitée à recevoir des dons défiscalisants. Et donc du coup, des gens ou des entreprises apportent de l'argent au budget de fonctionnement pour nous aider tout simplement à fonctionner. Alors, tu disais tout de suite qu'on allait avoir des difficultés. Alors, les difficultés viennent de la chose suivante. Aujourd'hui, comme beaucoup d'associations, le bénévolat pour compte d'autrui, hein, parce qu'il y a le bénévolat pour compte propre qui fonctionne très bien en France, mais le bénévolat pour compte d'autrui, c'est-à-dire les gens qui viennent bosser pour les autres, est en chute. C'est pas un scoop, hein, tout le monde le sait, toutes les assos sont dans cette situation. Donc l'association du train de Saumur en Wallon et du musée au train n'échappe pas à cette règle. Ça veut dire aussi très clairement qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens humains pour fonctionner en dehors de l'été. Nous n'avons plus de bénévoles suffisamment pour recevoir des groupes en mai, juin et septembre. Ça veut dire aussi que dès 2023, si on ne trouve pas de solution, on commencera à dire aux gens « Non, on ne peut pas vous prendre, on n'a personne pour vous recevoir ».
C'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que qui dit « on baisse, on annule certaines réservations, on décale certaines réservations, donc moins de ventes de billets, donc moins d'argent, donc encore… »
C'est ça.
Ça va devenir un cercle vicieux. Est-ce que tu vois quand même le petit train de Saumur en Wallon, si quand ça continue comme ça?
Fermé? Tout à fait.
Mais c'est un, on va dire, un monument du paysage local, départemental, qui risque de fermer si rien n'est fait. C'est quoi alors qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter cela?
Alors, je ne sais pas trop ce qui sera fait. Ce que nous, on a fait, parce que ça fait depuis 4 ans, qu'on tire la sonnette d'alarme. Depuis 4 ans qu'on dit à tous ceux qui veulent bien nous écouter que ça va mal finir, qu'on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a une chute du bénévolat. Depuis 50 ans, on fonctionne exclusivement en bénévolat. Là, c'est fini. La société d'aujourd'hui ne le permet plus. Donc la chute du bénévolat fait que, de toute façon, naturellement, faute de ressources humaines, on ne va plus pouvoir faire tout ce qu'on faisait. Alors, c'est vrai que on a très clairement dit, c'était le début du déclin. C'est inévitable. C'est-à-dire que quand on va commencer à dire aux gens « Non, on ne peut pas vous recevoir », donc comme tu l'as dit,
ça va être le début de la fin,
on va avoir moins d'argent. Oui. Donc qui dit moins d'argent, etc. Donc c'est la spirale descendante, hein, c'est clair. Donc c'est vrai que si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on laisse faire les choses, à échéance 5 ans, on va dire, 5-6 ans, c'est probablement fermeture du site. Donc fermeture du site, ça serait un gâchis monumental. Quand on voit les millions d'heures qui ont été mises dans ce site-là pour créer un musée qui est quasiment unique en France. Nos visiteurs disent souvent, on dirait Mulhouse en petit. Donc c'est un super compliment. C'est-à-dire, voilà, à partir de là, ça veut dire que la qualité de ce qu'on propose est équivalente à Mulhouse, la cité du train, sauf, bien entendu, c'est en petit, forcément, c'est pas la même chose. Mais c'est du même genre. Donc, ça serait quand même un gâchis monumental que de dire, on va fermer un site comme celui-là. Mais attention, danger, parce que c'est pas impossible de dire oui, on ferme les barrières. Alors, que faire? Donc, nous, on a commencé déjà, dans un premier temps, à essayer de trouver des solutions. Pour nous aider à compenser le bénévolat, c'est le. On a été opportuniste. On a utilisé ce que l'État a mis en place, c'est-à-dire aider l'apprentissage. Donc, ce qui nous a permis d'avoir des apprentis. Donc, Lola qui est avec nous aujourd'hui. Lola, c'est la 3e apprentie du site. Donc voilà, donc un apprenti ou une apprentie permet donc de compenser, au-delà de la formation qu'on lui doit, au-delà des temps qu'elle passe à l'école ou du temps qu'il passe à l'école, ça permet de faire des choses dans l'association et de compenser le bénévolat qui manque. Bon, c'est évidemment un pied-aller et c'est évidemment quelque chose qui ne pourra pas perdurer dans le temps.
Donc, un apprenti, l'apprenti est là 1, 2, voire maximum 3 ans.
C'est ça. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui pourra pas durer. Ça a été une période où là on a compensé, quoi. Je veux dire, on a compensé cette chute. Parallèlement à ça, on a écrit et provoqué des réunions importantes avec tous les élus décisionnaires de la Sarthe pour leur expliquer la situation. Ont-ils entendu? Ont-ils écouté? Je ne sais pas. Pour l'instant, on verra. Si un de nos apprentis va nous quitter là bientôt, puisque son contrat se termine. Il ne sera pas là au printemps prochain. Si ce jeune homme-là n'est pas là au printemps prochain, c'est clair, on refusera des groupes. Comment peut-on faire pour compenser ça? Nous, on a dit à ceux qui voulaient bien nous écouter, on peut garder ce jeune homme. Il va devenir salarié de l'association. Un salarié de l'association, c'est en gros, pour faire très simple, entre 22 et 25 000 euros annuels. Nous, aujourd'hui, le budget n'a pas les moyens de supporter ça, d'absorber ça. Donc on a dit, il faudrait nous aider.
25 000 euros en plus des 45 000 euros oui, déjà voilà. De fonctionnement.
On est bien d'accord.
Donc là, on est à 70 000. Là,
voilà, simplement que les 45 000 euros de fonctionnement sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire fonctionner la maison.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on paye les charges, les assurances, les impôts fonciers, enfin tout ce qu'il y a besoin de payer, y compris les salariés d'été. Donc ça, c'est autonome, ça fonctionne. On n'a besoin de rien d'autre. Par contre, un salarié en plus, évidemment, il va falloir l'absorber. Donc on a dit, il faut nous aider. Il y a quand même un certain nombre de collectivités concernées. C'est-à-dire que la question posée aux élus, c'est est-ce que vous considérez que le site de Semur-en-Vallon apporte quelque chose au territoire, apporte quelque chose à la Sarthe? Si oui, eh ben, il faut le garder, donc il faut l'aider. Si vous considérez que le site de Semur-en-Vallon n'apporte rien, ben, il faut surtout laisser tomber. Ce n'est pas un problème. L'association gérera, et elle gérera comment? En réduisant l'activité, peut-être en fermant un jour. On a argumenté en disant, voilà, s'il y a quatre collectivités, admettons, prenons un exemple, s'il y a quatre collectivités qui acceptent de jouer le jeu, 20 000 euros à quatre collectivités, ça fait 5 000 euros chacun. Mmh. C'est quand même une somme relativement faible quand on voit les dépenses publiques d'aujourd'hui. Par contre, 20 000 euros pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on récupère 20 000 euros, alors on peut garder notre apprenti en salarié, alors on peut continuer à fonctionner au moins 2023-2024.
Et il faut que ça soit une subvention, une aide pérenne.
Ah, il faut que ça soit pérenne. C'est, tous les ans, le problème va se reposer. Sachant que l'idée est quand même derrière ça, c'est que si on peut continuer à vivre, quand on voit le travail que font les jeunes d'aujourd'hui qui sont dans l'association, que ce soit les apprentis ou que ce soit les bénévoles, on se rend compte qu'ils ont envie que ça marche, qu'ils ont envie que ça se développe et qu'ils ont les compétences pour ça. Du coup, on se dit, il n'y a aucune raison qu'on n'augmente pas en puissance de visiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vers 7000. Si on s'y prend bien, vu la qualité du site qu'on présente, on peut monter à 8000, on peut monter à 9000, peut-être à 10000.
Et atteindre les 10000. Ouais.
Et donc, dans ces cas-là, eh ben, évidemment, on change la donne, puisque ben, la rentrée d'argent, elle va avec. Et donc, on pourrait aussi, derrière ça, envisager peut-être une autonomie, ou du moins presque une autonomie. Mais n'empêche que pour 2023, si on ne nous aide pas, on commence le déclin.
Lola, toi qui viens d'arriver depuis peu dans l'association, ouais. Tu as été mise au parfum en fait de ce problème. Quel est ton rôle toi au sein de l'association en tant qu'apprenti?
Alors donc je suis apprenti pour être assistante d'exploitation et donc je gère la communication. Et grâce à cette communication qui va être faite sur les réseaux sociaux, cette organisation d'événements, etc. Eh ben on va augmenter la visibilité de notre site, du musée au train et pourquoi pas au fur et à mesure augmenter le nombre de visiteurs.
Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup d'animations. Quelles sont les animations principales proposées dans l'année au petit train?
Alors on a quand même quelques événements. Ouais. On a le Cluedo qui se fait chaque été.
À guichet fermé.
C'est ça.
À chaque fois, c'est un truc de malade. Oui. À chaque fois, je dis, faut que j'y aille et je vois un message sur Facebook. C'est plein.
C'est plein.
Ah, bon, bah, t'es pas grave, on verra la prochaine fois, mais la prochaine fois, c'est plein. Tant mieux, dans un sens, Christian.
Ah, bah, c'est sûr, oui. Ah,
tout à fait. Les cinq, je vais laisser Lola continuer, mais les cinq événementiels de cette année ont tous été joués de cette façon-là.
D'accord. Donc, après les Cluedo.
Donc, après les Cluedo, on a aussi la nuit des musées. Donc ça, c'est encore un événement auquel je n'ai ni participé intérieurement là au musée, ni vu de l'extérieur. Donc je vais découvrir ça. On fête aussi Halloween, donc le train d'Halloween, fin octobre. Là, on a le train de Noël cette année.
Les JEP.
Ah oui, les JEP. Journée européenne du patrimoine.
Ouais, des belles manifestations. Ouais. Tu es là jusqu'à quand au petit train?
Alors, pour l'instant, je suis là jusqu'à août de l'année prochaine, 2023.
Donc, tu pourras participer tout l'été.
C'est ça.
D'accord. Tu fais surtout la partie communication. Est-ce que, par la suite, dans la suite de ta formation, tu vas éventuellement te mettre à la conduite des trains, à suivre les gens. Ah oui, donc c'est une ambition. C'est pour ça que tu es venu.
Train, oui.
C'est pour ça que tu es venu au petit train. Principalement.
On m'a demandé.
Ouais.
Et franchement, oui, j'ai envie. C'est quand même. C'est super de pouvoir faire ça.
Moi,
je rends pas compte.
Christian, alors c'est pas très radiophonique, mais tu vois son sourire dès que je lui ai parlé de conduire le train. tu as envie qu'il y ait plus de bénévoles comme elle qui viennent, même pas en apprentissage, juste en tant que bénévole.
On a quelques jeunes filles. On a deux jeunes filles, notamment Chloé et puis Audrey, qui sont très investies, qui sont bénévoles, enfin qui sont salariées l'été, mais qui sont bénévoles en dehors de ça, qui ont très envie et qui s'investissent beaucoup dans les événementiels notamment, donc ça c'est super. Moi je voudrais quand même dire que Lola, depuis 3 mois qu'elle est avec nous, c'est quand même elle qui a monté l'événementiel Halloween. Bien sûr, pas toute seule, on l'a aidée et puis on a participé, mais voilà, Lola était quand même chef de file, on va dire, et le train de Noël, pareil. Et donc, elle fait un super boulot, et la preuve, c'est que le résultat est au rendez-vous, quoi. Je veux dire, si ça marche aussi, c'est que d'abord, on a bien communiqué, et qui a communiqué, c'est Lola, hein, c'est exactement clair. Hein. Donc voilà, donc ça veut dire que ça marche bien. Et Lola, c'est beaucoup investi dans l'association, et je pense que ça devrait bien fonctionner. Et elle est très volontaire pour beaucoup de choses. Alors, je vais juste citer un petit exemple. La SNCF nous a proposé d'aller récupérer du matériel dans une gare qui va être démolie, donc en Loire-Atlantique, pour être clair. Et donc, on va y aller à 5 ou 6 bénévoles pour récupérer le plus de choses possible. Et quand j'ai dit à Lola, elle est en vacances en plus, elle sera en vacances.
Ah oui,
noté. J'ai dit à Lola, on va aller là-bas. Lola me dit, je peux venir. Voilà. Donc ça montre son état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, au-delà de sa fonction communication, développement d'événements, gestion des visiteurs, et elle a envie aussi de s'investir dans l'ensemble de la vie de l'association. Ouais. Et ça, c'est fondamental.
Est-ce que tu as monté un plan justement pour essayer de recruter des bénévoles au sein de l'association via les réseaux sociaux? Parce que, faut pas se mentir, hein, les jeunes actuels passent beaucoup plus de temps devant leur écran que avec les mains dans le cambouis, hein, comme certains anciens. Est-ce que tu as prévu un plan de recrutement?
Justement, je compte utiliser les réseaux sociaux pour interviewer les bénévoles. Et donc, qu'ils expliquent tout ce qu'ils font au musée, leurs fonctions, etc. Et pourquoi pas, derrière ça, amener les jeunes et les inciter à venir être bénévoles au musée aussi.
Une belle action, Christian.
Oui, d'ailleurs, c'est Lola qui anime les réseaux sociaux. Allez voir la page Facebook de notre association. Toutes les semaines, elle met une énigme.
Oui.
Et donc, il faut répondre, et voilà, etc., etc. Ça, c'est Lola.
Il n'y a jamais un jour où il ne se passe rien.
Ouais, c'est ça, hein, il se passe toujours quelque chose.
C'est sûr.
Avec des grands événements, les événements à Gaston.
Alors, qui font beaucoup de vues, qui plaisent.
Justement, Gaston, on l'a découvert via nos confrères d'LMTV. Gaston a une ambition, et ça rime.
oui.
Gaston a une grande ambition qui va bientôt marcher. Parle-nous de son ambition, un des bénévoles justement de l'association. Alors, c'est pas le seul hein, qui
l'ami travaille. Gaston, alors d'abord quand même, ça se dit pas mais je le dis quand même, il a 3x20 ans quand même.
ça se voit pas.
Non mais n'empêche que il a 3x20 ans. Donc il y a 2 ans maintenant, alors pour partir du début, la voie de 60, donc inventée par Paul Decauville, il y avait des machines à vapeur. Elles ont été ferraillées à la pelle, et voilà, on a jeté ça dans les années 50-60. Aujourd'hui, il y en a plus. Il y en a très, très peu. Quelques-unes restent dans quelques associations qui ne les vendent évidemment pas. Et quand il y en a une à vendre par hasard, l'ordre d'idée du prix dépasse toutes nos possibilités puisque c'est des machines qui se vendent entre 150 et 200 000 euros.
Donc, bagatelle.
On n'en parlera pas. Et donc Gaston, l'ami Gaston, un jour, avec 2 autres bénévoles mais qui n'ont pas suivi le mouvement, on dit « mais pourquoi on n'en ferait pas une ?» Et donc, on est parti d'un châssis de locomotive et d'un moteur à vapeur que j'avais récupéré sur un bateau en région parisienne qui servait à relever des treuils, des machins, des trucs comme ça, mais qui était hors fonction, bien sûr. Et puis, ils sont partis là-dessus. Donc, ils ont tout démonté, tout dépiauté, tout restauré. Ils sont en train de monter. Et puis, c'est très compliqué. Hein, ils ont démonté au moins 50 fois. Enfin, c'était très, très technique. Et un jour, en discutant de tout ça, parce qu'on fait quand même des mini-briefings sur le terrain, on va dire, on dit, mais on n'y arrivera jamais à faire marcher ça en machine à vapeur. Et l'idée est de dire, mais pourquoi on ne ferait pas une machine à air comprimé? Parce que autrefois, il y avait des machines à air comprimé, notamment Renault en fabriquait pour les mines. Hein, donc, c'était des machines qui, pour aller dans les endroits dangereux en termes d'explosifs, explosions. Et donc, il y avait des machines à air comprimé qui n'existent plus aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Et donc, Gaston a dit, ouais, parce que c'est le même principe, hein, une machine à vapeur, que ce soit de la vapeur qui vienne dans les pistons ou que ce soit de l'air comprimé, c'est la même technique. Donc, ben voilà. Et donc, Gaston, ben, est parti à fond là-dessus. À fond. Et donc, il travaille aujourd'hui. Et il y a un mois maintenant, un mois et demi. Hein, il a réussi, enfin, après 2 ans de travail, à faire tourner sa machine à l'air comprimé. Alors, et on avait filmé, évidemment, on a combien, tu m'avais dit combien de vues sur les réseaux sociaux?
Plus de 1400 vues sur Facebook.
Et donc, ça a intéressé LMTV, nos amis d'LMTV, qui se sont dit, on va aller filmer ça quand même, et voilà. Et voilà l'aventure. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller au bout, de construire vraiment une machine à air comprimé qui roulera sur le réseau et qui pourra éventuellement tirer des voitures de voyageurs.
Bon, en tout cas, sur la page Facebook, on a le lien direct de l'interview de nos confrères. Avant de se quitter, la suite pour le petit train, on l'a dit, on cherche de l'argent, on a besoin d'argent pour éventuellement, enfin en tout cas, pour tenir l'association, et c'est aussi pour avoir ce salarié. Comment on fait pour devenir un mécène, Christian? Alors, il y en a déjà des entreprises qui, tu le disais, hein, qui donnent déjà à l'association, mais là, on voudrait un peu plus, et les particuliers peuvent aussi donner.
Oui, alors voilà, l'idée du mécénat, c'est national, bien entendu. Je cite quand même un chiffre qui est non négligeable. Le Louvre, c'est 2 millions d'euros en mécénat. Bon, on n'est pas le Louvre, soyons c'est raisonnable, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités. En gros, c'est simple, hein. Vous payez des impôts sur le revenu ou votre entreprise paye des impôts sur les bénéfices et vous avez envie de réduire un peu cette imposition en mettant de l'argent dans quelque chose où vous allez pouvoir voir et savoir ce qu'on en fait. Alors bien sûr, il y a toutes ces grandes associations nationales. Là, on voit bien sur les revues actuelles en ce moment, en décembre et puis en novembre un peu, que toutes ces grandes associations nationales ont fait énormément de publicité, hein, pour récupérer, ben, bien sûr, de l'argent en mécénat. Or, notre association est habilitée par le fisc et également par le préfet à recevoir ses dons et à délivrer les attestations fiscales. Ça veut dire en clair que plutôt, ça veut pas dire qu'il faut pas leur piquer tout leur argent aux ces grandes associations, mais plutôt que de tout mettre, je le citerai pas, mais dans des grandes associations que vous connaissez tous, si vous mettez un tout petit peu d'argent à ce mur en vallon, d'abord, vous défiscaliserez, il y a pas de problème puisqu'on est bien dans le système, mais surtout, vous aiderez une association qui sans vous va crever.
Une association locale.
Et locale en plus. Vous pourrez donc venir voir, parce qu'en fait, quand on renvoie l'attestation validée par nous, on joint des billets de train, donc vous pourrez venir voir qu'est-ce qu'on a fait avec votre argent. Donc on a besoin de vous. Pourquoi ? Parce que notre jeune bénévole, notre jeune apprenti qui va nous quitter bientôt, si on trouve pas au moins la moitié de l'argent qu'il nous faut pour le garder, je rappelle qu'un salarié minimum c'est 22-25 000 euros l'année, faut au moins qu'on arrive à récupérer 12-15 000 euros. Si on n'arrive pas à trouver ça, on ne l'embauchera pas. Alors déjà, c'est ennuyeux pour lui parce que il va falloir qu'il aille jouer ailleurs. Et deuxième chose, ben nous, de toute façon, on va décliner, c'est inévitable. Donc, c'est vrai que les grandes associations ont forcément besoin d'argent, mais nous aussi. Et en plus, nous, l'argent que vous allez verser dans notre association, elle va aller entièrement à la cause. C'est-à-dire qu'on n'a pas un grand service administratif qui va bouffer déjà 30% du don. C'est nous, c'est 100% pour nous. Tout est géré bénévolement. Tous les documents sont faits bénévolement. Et donc, voilà, vous avez une très bonne action à faire. Et en plus, bah, vous défiscalisez, c'est pas non plus négligeable.
On fait comment? On appelle où? On va sur quel site? Où on peut se déplacer peut-être aussi?
Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez tout simplement envoyer par la poste un chèque, aussi simple que ça. Vous envoyez un chèque avec votre nom, votre adresse, à la gare de Semur-en-Vallon, hein, musée au train à la gare de Semur-en-Vallon. Et derrière ça, on fait tous les documents qui vont bien et on vous les retourne. Après, vous pouvez venir nous voir, bien entendu. Après, vous pouvez aussi faire un virement bancaire, mais là, il faut nous demander les caractéristiques, bien sûr. Mais toutes les solutions sont possibles, le plus simple étant évidemment le chèque, sans problème.
Et chaque don compte.
Et chaque don compte. Pour donner une petite idée, en général, les particuliers donnent entre 50 et 100 euros. Voilà, chacun selon ses moyens. Et quand on a des entreprises qui jouent le jeu et qui nous apportent de l'argent, c'est entre 500 et 1000 euros.
On appelle évidemment même les municipalités, les communautés de communes qui nous écoutent à éventuellement vous contacter pour faire un don également, les entreprises qui nous écoutent également.
Tout à fait.
Moi, je voulais juste dire que si les gens ils ont été touchés par ce que vous avez dit, je les appelle à donner un don pour sauver votre petit train parce qu'il apporte quelque chose au département. Parce que plein de gens ont été le voir. Donc, il faut vraiment sauver ça. Et que c'est quelque chose qui est important.
Merci Landreau.
Merci.
Tout voilà. à fait raison Landreau.
La jeunesse qui parle là.
Tout à fait raison voilà. Landreau. Parce qu'en fait, c'est sérieux. Quand on parle pas dans le vide, hein. On dit attention danger. C'est-à-dire que si vraiment on peut pas avoir un salarié en 2023 et probablement un autre en 2025 ou 26, le site va fermer. Ça peut pas faire autrement. Ça veut dire qu'il va s'arrêter. C'est-à-dire que les portes seront fermées définitivement.
Le site muséeautrain.fr pour avoir tous les contacts, comment faire pour faire un don, comment faire également pour aller voir ce musée au train. Voilà, on a parlé évidemment pendant toutes ces minutes de l'avenir du musée au train. On espère évidemment que, pour moi, ce patrimoine historique de ce mur en vallon et du département de la Sarthe ne fermera pas ses portes. Merci en tout cas, Christian, d'être venu.
Merci Teddy de nous avoir invités. Merci Landreau de cette interview. Mais merci. Je remercie Lola de m'avoir accompagné.
Exactement. Merci Lola.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonne suite et on souhaite bonne chance au musée au train. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.